Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Bonsoir Mario.
Bonsoir.
Alors, 8 novembre, hein, c'est une date que bien des Canadiens, bien des Québécois ont entouré sur leur calendrier, là, la frontière terrestre avec les États-Unis qui rouvre enfin pour bien du monde.
Ouais, il faut comprendre que c'est deux, c'est pas juste une incohérence, mais c'est deux incohérences qui se corrigent là en même temps. Parce que d'abord, on pouvait aller aux États-Unis par la voie aérienne. D'ailleurs, c'est ce que faisaient certaines personnes qui allaient en Floride, faisaient livrer leur auto, comme étant donné que un camion prenait leur auto, allait leur livrer, ça devenait une activité commerciale. Donc leur vol était correct pour se rendre en Floride, puis l'activité commerciale de transporter leur auto, c'était correct, mais eux n'auraient pas pu passer en auto. Deuxième chose, deuxième incohérence, c'est que depuis le mois d'août, là, depuis le 9 août, il est possible pour les Américains, même s'il y avait plus de COVID aux États-Unis qu'au Canada, il est possible pour les Américains de traverser la frontière. Donc, au même poste frontalier, les Américains pouvaient passer par la voie terrestre vers le Canada, mais les Canadiens ne pouvaient pas passer. Et ça, c'était surtout dû, je pense, les Américains ont voulu être équitables envers le Canada et le Mexique. Vous voulez être équitable pour le Mexique. Vous voulez pas donner un privilège au Canada avant le Mexique. Donc, on voulait traiter équitablement les deux frontières terrestres. Donc, à cause de ça, le Canada en aura attendu 3 mois de plus. Il va rester une question. Pour les gens qui partent longtemps, là, c'est correct. Mais pour les petits séjours, là, les gens qui vont passer une fin de semaine en Floride, 3-4 jours, ou même au Maine ou au Vermont, peu importe, la question du test au retour, là, je pense que comment on va administrer ça, comment on va gérer cette question-là, parce que là, ça va devenir, je pense, pour des gens qui font des petits voyages aux États-Unis, le test au retour va devenir encombrant.
Ouais. Parlant de date. Une date là, enfin partagée par Justin Trudeau, là, Mario, pour le dévoilement de son cabinet, le retour des travaux. Un cabinet, donc, à la 6e semaine après le scrutin.
Oui, et on va siéger au Parlement le 22 novembre, donc à la 10e semaine après le scrutin. Est-ce que c'est lent comme reprise des travaux? Oui. Est-ce que c'est compatible avec ce que M. Trudeau disait en campagne, qu'il y avait urgence d'agir? Non. Je vais dire... Ça monte la barre. Là. Si M. Trudeau nous arrive vraiment avec un cabinet très réformé, de nouvelles orientations, un discours du trône là, qui casse tout, là, vraiment où on dit « wow, il est reparti sur des nouvelles bases, un nouveau cabinet plus efficace, nouvelles orientations », Je m'amenderai, là, j'ai chialé pas mal après lui, je m'amenderai puis je dirais OK, il s'est donné du temps parce qu'il voulait être bien préparé puis vraiment là il a repris un nouvel élan parce que pour gouverner pendant 3-4 ans là, il y a une nouvelle vision. Mais sinon, Sophie, on va être obligé de dire que c'est une grosse supercherie là, parce que le prix à payer est élevé. Le Parlement a fermé en juin. Devait reprendre la fin de l'été, mais plutôt que ça, on est parti en campagne électorale. Là, ils vont reprendre. Le 22 novembre, ils vont siéger quelques jours seulement, parce que ça va être Noël, ça va être les vacances des fêtes tout de suite. Donc, vont faire le débat sur le discours du trône, puis vont faire presque rien. Et donc, le Parlement aurait été presque arrêté de la mi-juin au mois de février, là, à la fin janvier, début février.
Que de temps perdu, hein?
Que de temps perdu, là. Donc, non seulement l'élection aurait donné le même résultat. Dans le fond, on est revenu avec le même Parlement, mais en plus, on aurait perdu presque 7 mois de Parlement. Ouais. Donc, les attentes sont élevées. Il va falloir que M. Trudeau nous prouve là, par la qualité de ce qu'il va nous offrir que ces mois-là ont été bien utilisés.
Oui, ça devrait être éclatant. Voilà. Parlant de pandémie, Mario, la question de la vaccination obligatoire, là, ça soulève les passions. Là, pas seulement ici, c'est un questionnement planétaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le 15 octobre en France, là, ça s'applique là, à tous les travailleurs de la santé. Là.
Et d'ailleurs, c'est un petit peu gênant pour nous, là, pour nos travailleurs de la santé, parce que en France, là, ils ont mis la même obligation, la même date. Et eux aussi, ils ont eu des récalcitrants, mais 0.6%.
0.6.
Ouais.
Et nous, c'est 6.
Moins d'un point. Nous, c'est 6. Donc, c'est 10 fois plus. En proportion, on a 10 fois plus de notre personnel de la santé qui a refusé de se faire vacciner que les Français. Puis les Français qui sont pas réputés quand même pour être trop dociles quand le gouvernement leur impose quelque chose.
Il y a un creuset là-bas là, de complotistes là, assez solide.
Mais oui, mais pas dans le réseau de la santé. Donc je trouve que c'est assez gênant. Comment ça se fait que nous autres, dans notre personnel de la santé, il y en a autant alors qu'ils sont censés être formés, comprendre les bases des principes simples comme la vaccination, la c'est vraiment gênant. Mais oui, aujourd'hui, en Italie, là, c'est le pays qui va le plus loin sur Terre. Aujourd'hui, en Italie, on ne peut plus travailler. Public, privé, PME, municipal. Il n'y a aucun emploi qui peut être occupé sans avoir le passeport vaccinal. Donc le débat qu'on a eu sur la vaccination obligatoire en santé, ils l'ont eu aux États-Unis, dans les autres provinces canadiennes. Ça s'en vient en Ontario. En France, ça entre en vigueur. On a eu cette semaine au Québec un débat qu'on a reporté d'un mois, mais qui est un débat qui est planétaire, en effet. Mmh.
Absolument. Merci beaucoup, Mario.
Au revoir, bonne fin de semaine. Alors, Vincent, fin de semaine qui va marquer aussi le début de la chasse à l'orignal. Donc, un conseil aux gens, si vous allez comme touriste en Abitibi, mettez pas votre manteau de fourrure.
Non, c'est vrai parce que, en fait, le premier appel, c'est la prudence. Hein, parce qu'il arrive quand même des incidents des fois à la chasse. Surtout des fois à mélanger l'alcool. Alors, c'est pas faut être prudent à la chasse. C'est une activité qui représente quand même des dangers. Mais oui, c'est le début de la chasse à l'orignal demain. On sait que l'an dernier, c'est 20 000 orignaux quand même qui ont été tués comme ça, et c'est des investissements quand même majeurs, particulièrement dans l'Est du Québec. Juste chasse à l'orignal, c'est des retombées économiques de 192 millions de dollars. Toute la chasse, là, c'est 6 000 emplois partout en province. D'ailleurs, dans les permis de chasse, moi, j'étais quand même surpris. Combien de Québécois ont eu un permis de chasse à l'orignal en 2020?
Je sais pas.
169 000.
C'est beaucoup de monde, hein?
C'est beaucoup de monde. On comprend que c'est pour ça que pas tout le monde qui tue. Hein? Et on dit d'ailleurs dans la relève là, qu'il y en a là, beaucoup de jeunes, des femmes d'ailleurs dans les cours de maniement d'armes à feu. Il y aura 32% de femmes maintenant. Alors c'est parti demain, mais pas la journée la plus ensoleillée pour commencer la chasse.
Non, on va commencer à chasser dans la flotte, là.
Ouais, beaucoup de pluie d'ici dimanche matin un peu partout au Québec. D'ailleurs, Mauricie, Laurentides, de la Naudière, les coins les plus touchés, 40 à 60 mm de pluie. Montréal, 10 à 15, c'est ce qui était attendu demain. Alors, il y a pas de mauvaise météo, il y a juste des mauvais vêtements.
Ouais, mais
vous habillerez comme il faut.
Quand tu parles, mon souvenir, c'est d'avoir écrit ce texte sur les chevreuils à Longueuil, où on a parlé pendant des semaines de 15 chevreuils. Alors que pendant que la discussion avait lieu, le ministère de la Faune a produit son rapport de gestion du cheptel. Et le chevreuil au Québec, là, c'est un cheptel très bien géré, là, avec des inventaires qui sont faits. On sait combien il y a de chevreuils. On est en surpopulation dans presque toutes les régions. On a un portrait précis. Puis on disait qu'on avait abattu 48 000 quelques cent chevreuils. Sans que personne en parle. Mais il y avait ces 15 à Longueuil pour lesquels le conseil municipal a siégé jusqu'à 1h du matin.
De revirer la ville de bord. Mais tu peux ajouter à ça 20 000 orignaux. Alors, c'est la saison difficile pour ces animaux-là.
Beaucoup de bonnes viandes.